Il est 14h05 minutes. Ben, c'est le 4 juillet. Puis, qu'est-ce qui se passe le 4 juillet? C'est la fête des Américains aujourd'hui. Donc, il va y avoir plein de festivités aux États-Unis. On va aller en parler immédiatement avec Richard Châteauvert, qui est correspondant à New York. Bonjour, Richard.
Salut, Louis. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des défilés dans toutes les villes, dans toutes les communes, dans toutes les municipalités.
Ouais, hein?
Il y a des barbecues. Et cette année, évidemment, le président Trump, lui, est dans un de ses clubs de golf, celui de Virginie. Et il est en train de choisir son prochain juge à la Cour suprême. Ça, c'est très important. Et dans chaque État, les sénateurs vont participer à des défilés et on va leur poser des questions sur leur choix, notamment Susan Collins dans le Maine. Mm-hmm. Bon, on sait que le nouveau juge pourrait permettre à la Cour suprême de rendre à nouveau illégal l'avortement. Enfin, ça, c'est une solution, c'est une issue extrême, mais c'est très important cette année. Donc, ici, ce soir, on a un feu d'artifice à 21h25. C'est dans le cadre d'une grande émission que tout le monde peut regarder, même au Canada, sur NBC. Ça commence à 20h. Il y a sur PBS une émission à 20h également pour ce qui se passe à Washington. Donc, il y a des spectacles, des feux d'artifice un peu partout.
Est-ce qu'il y a des grands artistes qui participent à ces spectacles-là?
Écoutez, c'est un peu drôle parce qu'à Washington, on a les Beach Boys.
On a
les Four Tops. Donc, on est vraiment dans la nostalgie.
Passé, ouais.
Oui. Et ici, à New York, c'est Kelly Clarkson, c'est un peu plus nouveau, puis Ricky Martin, un peu moins nouveau.
Ouais.
Donc, c'est
assez particulier. Washington, les Beach Boys, mon Dieu.
Oui. Oui, ça fait longtemps. Hein?
Oui, ça fait longtemps.
Premièrement, je l'ai dit ce matin, à l'émission du matin, c'est congé. Je n'ai entendu aucun klaxon ce matin à Manhattan. Et ça veut dire que c'est vraiment une fête parce que ça arrive trois fois par année. Thanksgiving, Memorial Day, puis la fête, le jour de l'indépendance aujourd'hui, on n'entend pas de klaxon. Ça veut dire que ce sont des fêtes qui sont très observées. La ville est vide. Tout le monde est sur les plages actuellement. Ouais. Et à Coney Island, on a eu ce matin le fameux concours des hot dogs. Et tu sais que depuis 2011, il y a un concours femmes. C'est Mickey Sudo qui a remporté la palme chez les femmes. C'est sa cinquième victoire consécutive. Elle a ingurgité 37 hot dogs en 10 minutes. Et chez les hommes, c'est le champion des 11 dernières années, Joey Chestnut. Il a ingurgité 74 hot dogs en 10 minutes. Bon, mais écoute bien ce qui est arrivé, c'est que au début, le juge qui faisait le décompte en a compté 64, mais après ça, avec la reprise vidéo, on s'est rendu compte qu'il avait deux assiettes et qu'il mangeait à un moment donné deux hot dogs à la fois. Donc au total, c'est 74, c'est un nouveau record pour Joey Chestnut et c'est quand même un prix intéressant, 10 000 $ qu'il a remporté.
Et une commandite de chez iGrade probablement, quelque chose du genre.
Non, c'est Nathan. Nathan, c'est la grande marque de hot dog de Coney Island. C'est une marque emblématique. Donc, ça se passe très bien jusqu'ici. Évidemment, il y a des mesures de sécurité.
Oui, parce qu'il y avait eu cet attentat déjoué dont on nous a parlé en fin de semaine. Là, un homme qui voulait faire exploser un camion parmi les militaires. Là, j'imagine que l'aspect sécurité doit être renforcé au maximum.
Ben, à cause de tous les attaques aux véhicules béliers qu'il y a eu cours des dernières années, il y a des camions de ramassage d'ordures ici à tous les coins de rue. On met des camions énormes pour empêcher toute tentative d'attentat au moyen d'un véhicule, soit une voiture, soit un camion. On a déjà eu, comme tu sais, l'an dernier, un attentat ici sur une piste cyclable. Ouais. Bon, un homme qui avait loué un petit camion puis qui avait tué plusieurs personnes. Donc, c'est la crainte que les autorités ont et elles prennent des mesures à cet effet pour bloquer toutes ces tentatives. À Washington, il y a 3000 mètres de clôture grillagée. C'est un espace très grand. Et à Washington, il y a eu un défilé qui a débuté un peu avant midi. Mm-hmm. Et il y a toutes sortes d'activités toute la journée.
Bon, est-ce que il fait beau en ce moment à New York? Parce qu'ici, c'est la canicule. Fait quelque chose comme, attendez, il fait 34 degrés en ce moment là.
Ouais. Ben c'est la même canicule et en fait, je l'ai dit ce matin, il devait faire plus chaud chez vous qu'aujourd'hui. Actuellement, il fait plus chaud à Montréal. Il fait 32 à Montréal et 28 à New York. C'est rare que ça se produise. Évidemment, ouais. C'est le même système, c'est la même canicule. C'est un peu couvert ici. Il pourrait y avoir un orage, mais ce soir, on dit que le temps va être très, très beau pour le feu d'artifice qui débute à 21h25. Et encore une fois, vous pouvez le regarder sur NBC à partir de Montréal.
Monsieur Châteauvert, merci beaucoup et bonne fête nationale.
Merci beaucoup.
Au revoir. Richard Châteauvert est correspondant à New York. Maintenant, on va essayer de faire un saut dans l'histoire parce que qu'est-ce qu'on célèbre? Bien sûr, c'est le jour de l'indépendance américaine, mais il semble que ce soit pas aussi clair. Est-ce que c'est véritablement le 4 juillet que c'est survenu, etc.? Donc, Greg Robinson est spécialiste de l'histoire des États-Unis. Il est membre de la chaire Raoul Dandurand. Il est originaire de New York. Il est présentement à Baltimore, le joint maintenant. Bonjour, M. Robinson.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que c'est, au juste, qu'est-ce qu'on fête le 4 juillet aux États-Unis?
Le 4 juillet, c'est le moment où on a adopté le texte de la Déclaration d'indépendance, ce qui est un jour qui est un peu moins fort en ce qui concerne l'octroi de l'indépendance que le 2 juillet, parce que c'est le 2 juillet où le Congrès continental a voté sur la question de l'indépendance. Il suffisait juste après de s'accorder sur le texte de la Déclaration.
Donc, c'est ça, parce que je lisais ce matin que pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui considèrent que la véritable date, c'est le 2 juillet et non pas le 4 juillet. Là. C'est une question d'interprétation.
Effectivement, en effet, John Adams, un des leaders du Congrès continental, avait prévu qu'il y aurait des feux d'artifice, des grandes célébrations, toujours pour fêter l'immortel 2 juillet.
Ouais.
Bon. Mais c'est pas produit comme ça. Mais tout de suite, c'est parce qu'on a lu le texte et on a crié haut et fort que c'est là l'indépendance. Donc, le 4 juillet, c'est associé à l'indépendance. Tout comme le 14 juillet, la prise de la Bastille, c'est devenu la fête de la nation en France, même si la formation, par exemple, de l'Assemblée nationale date de fin juin.
Bon, alors, on décrète l'indépendance de quoi le 4 juillet 1776?
Mais on déclare que les colonies britanniques qui allaient devenir les États-Unis étaient indépendants, qu'ils pouvaient donc se comporter comme une nation indépendante et notamment former des alliances de guerre qu'ils avaient éventuellement fait avec la France et l'Espagne et les Pays-Bas.
Et quel était le problème d'être associé aux colonies britanniques à l'époque? Pourquoi est-ce qu'on voulait absolument s'en dissocier et devenir indépendant?
Mais encore, l'explication traditionnelle qu'on apprend à l'école, c'était la taxation sans représentation.
Ouais.
C'est un différent sur la question du contrôle des colonies par la couronne et par le Parlement. Mm-hmm. Les colonies ayant été auparavant assez autonomes ont réclamé le droit de choisir leurs représentants pour se faire taxer après la guerre de 7 ans, ce qu'on appelle aux États-Unis « the French and Indian War ». La couronne pour rembourser les lourdes dépenses de défense en Amérique du Nord avait voulu instaurer un régime de taxation. En plus, ils avaient fermé l'Ouest après les montagnes Appalaches pour réserver aux Autochtones qui avaient été leurs alliés au sein de la guerre contre la France.
Ouais. Et donc, il y avait eu une guerre quand même assez importante auparavant.
Oui, mais les Canadiens et les Québécois ont bien appris l'histoire de la conquête et de la guerre de 7 ans. Ça a été une guerre mondiale parce qu'il y avait la lutte en Europe, en Inde et ailleurs. Et donc, ça a réglé la question parce que la présence des Français en Amérique du Nord avait un peu obligé les Britanniques et leurs colons blancs britanniques en Amérique à s'unir. À rester ensemble, mais une fois la menace des Autochtones était réduite et la menace des Français était éliminée par la grande victoire de la conquête, les colons se pensaient prêts à avoir une autonomie.
Ouais. Et donc, où a été signée justement cette déclaration d'indépendance?
À Philadelphie.
Oui, c'est ça, parce qu'on a souvent l'impression que, parce que Washington est la capitale des États-Unis, que c'est ça que ça s'est passé, mais en réalité, d'ailleurs, il faut aller visiter à Philadelphie tout le quartier où la déclaration d'indépendance a été signée, négociée. Là.
Oui, on a gardé Independence Hall et on a fait un pavillon pour le Liberty Bell, la cloche de la liberté qui était la cloche qui sonnait la liberté. Mais oui, la ville de Washington n'était pas encore même inventée parce que c'est une ville construite. C'est finalement prévu dans la Constitution de 1787 qu'il y aurait un district fédéral et George Washington, comme président, avait le soin de choisir un espace près de chez lui, comme bien de PDG.
Et là, vous êtes à Baltimore. Est-ce qu'il y a une raison en particulier en raison du 4 juillet ou parce que Baltimore n'est pas très loin de Philadelphie en même temps?
Ou de
Washington?
Moins loin de Washington. Mais l'importance de Baltimore, c'est le lieu, ici, Fort McHenry, qui est ouvert le 4 juillet. C'est le lieu de la grande bataille de la guerre de 1812, la victoire sur les Britanniques, qui a aussi donné lieu à la création de notre hymne national, The Star-Spangled Banner.
Et du drapeau, la préservation du drapeau aussi.
L'auteur était un témoin. Comment ça? Oui.
La préservation du drapeau également. On peut aller visiter justement le phare, qui est magnifique d'ailleurs, qui est très bien restauré.
C'est tout à fait vrai. Le drapeau lui-même est à Washington, au Smithsonian Institution, mais le phare, oui, est restauré et est en bonne condition. Et on peut donc célébrer la défense de l'indépendance dans cette deuxième guerre anglo-américaine.
Et de quelle façon vous allez célébrer ça aujourd'hui, vous, en tant qu'Américain?
Moi, en tant qu'Américain, j'entends manger du barbecue et assister au feu d'artifice.
La façon traditionnelle. C'est très bien.
Monsieur. Mais je suis historien, je suis imbu de la tradition de mon pays de naissance.
Voilà, exactement. Monsieur Robinson, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur le sujet.
Bonne journée.
Au revoir. Greg Robinson est spécialiste de l'histoire des États-Unis. Il est membre de la chaire Raoul Dandurand. Il est originaire de New York, présentement à Baltimore, pour manger des hot dogs et regarder des feux d'artifice. On revient dans un instant.